Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, un jour j'habiterai en théorie parce qu'en théorie tout va bien. C'est la citation que ma belle-sœur a encadrée dans son salon et elle correspond parfaitement à notre émission du jour. En théorie, nous savons que le climat se réchauffe et que la biodiversité s'effondre. Nous n'avons même jamais été aussi bien informés. Nous avons développé un niveau de connaissance et des réseaux de chercheurs d'une qualité inégalée. Mais concrètement, que faisons-nous? Des réunions internationales avec des accords ratifiés par des dizaines de chefs d'État, des coalitions d'acteurs avec des préoccupations communes comme le développement des énergies renouvelables. Mais tout cela est trop lent et l'addition de notre inaction va être salée. Il est donc temps de quitter le théorique et de passer aux pratiques.
C'est pas du vent sur RFI.
On a compté 1, 2, 3, 4, 5 grandes crises. Alors, la plus intense a été celle entre le Permien et le Trias, il y a 245 millions d'années, où 95% des espèces vivantes s'éteignent. Et la cinquième, c'est la mieux connue, c'est celle qui fait disparaître les fameux grands dinosaures. Et un peu après, une fois que ces grands reptiles auront disparu, on verra l'explosion des mammifères, des oiseaux, des plantes à fleurs aussi, bien sûr, avec les insectes pollinisateurs qui vont avec. Alors la question qui est posée aujourd'hui, et c'est depuis à peu près un siècle et demi, c'est que les conditions de vie de l'homme, de par sa démographie d'un côté, deuxièmement, de par ses activités, bien sûr, environnementales, sont-elles pas en train de créer les conditions d'une sixième grande crise d'extinction? Donc il y a vraiment un effort considérable à faire, parce que même si on ne sait pas trop comment fonctionneront les écosystèmes avec beaucoup moins d'espèces, il est clair qu'on se prive de ressources extraordinaires en matière de services rendus par les écosystèmes.
Le biologiste Gilles Boeuf, bonjour Chimerdio.
Oui, bonjour Anne-Cécile.
Bonjour, vous êtes en ligne depuis Yaoundé au Cameroun. Vous êtes membre du conseil scientifique de l'IBES, qui est donc la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Une plateforme qui a été créée en 2012 justement pour essayer de sensibiliser l'opinion internationale et notamment les politiques à la lutte contre la détérioration de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'IBES en quelques mots ?
Oui, l'IBES, c'est une plateforme qui a été créée après plusieurs années de préparation, de discussion, sous les auspices du PNUE, de la FAO, enfin des Nations Unies, et qui s'est fixée pour tâche de développer un certain nombre de domaines de travail, de faire des évaluations qui présentent des rapports mondiaux et régionaux sur l'état des connaissances sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc sur les contributions à la nature aux gens, et qui s'occupe également de développer des outils et des méthodes pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, et de renforcer les capacités et de produire de nouvelles connaissances. Donc ça sont les quatre grands domaines de travail de l'IBES, qui s'appuient sur des milliers de chercheurs qui sont d'experts, qui interviennent dans les différentes évaluations, et qui est établi, son secrétariat est établi à Bonn, avec un bureau qui représente un peu toutes les régions du monde et un conseil scientifique qui est un peu plus large et qui représente également les cinq principales, les régions du monde.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Jean-François Sylvain nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et vous revenez de Medellín, en Colombie, où l'IBES a tenu sa sixième session plénière. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est quoi une session plénière de l'IBES?
Alors, une session plénière de l'IBES. L'IBES est donc cela vient d'être dit, une plateforme qui associe scientifiques, porteurs de connaissances et politiques. Elle fait des évaluations, et là nous étions face à quatre évaluations régionales, Amérique, Afrique, Europe et Asie centrale, Asie et Pacifique, et une évaluation transversale sur la dégradation et la restauration des terres, des sols. Donc un énorme travail pour lequel donc les scientifiques, les porteurs de connaissances vont rédiger des rapports, et de ces rapports sont tirés ce qu'on appelle des résumés pour décideurs. Et ce sont ces résumés pour décideurs qui vont être validée, acceptée par les représentants des États lors de la plénière qui réunit donc l'ensemble des États signataires, hein, adhérents à l'IBES.
Alors c'est le même principe finalement que les scientifiques du GIEC pour le climat, et à partir du moment où les décideurs, donc les politiques, acceptent ce rapport, alors ce n'est pas contraignant, mais quelque part ça veut dire qu'ils sont informés et qu'ils ont connaissance de la situation. Alors ces rapports dont vous parlez, c'est 3 années de compilation de plus de 10 000 publications scientifiques, hein, réalisées par je crois 550 experts d'une centaine de pays, c'est énorme. Et globalement, on peut le dire, hein, Jean-François Sylvain, le constat est catastrophique.
Alors, le constat ne va pas surprendre des scientifiques, si vous
prenez... Non, mais nos auditeurs, peut-être.
Alors, les auditeurs, peut-être. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, la production scientifique en 2017, elle aboutissait aux mêmes conclusions. Hein, c'est-à-dire que la biodiversité est très sérieusement malmenée, dégradée, et les services que les humains retirent de cette biodiversité sont souvent, je dirais, diminués, mis en cause, etc. Et je pense que ce qui est intéressant avec cette plénière, c'est donc que près de 100 pays, hein, l'ensemble des pays qui étaient représentés, ont validé cette idée que justement la biodiversité, si j'ose dire, allait un peu dans le mur, hein, et qu'il fallait donc réfléchir à comment éviter ce choc et comment, non pas la reconquérir comme le titre de la loi française, mais essayer tout de même d'aller dans une direction permettant de la préserver.
Alors j'ai glané quelques chiffres ça et là. En Europe, 42% des animaux terrestres et des plantes sont en déclin, comme 2/3 des poissons et plus de la moitié des amphibiens. Sur le continent américain, la forêt amazonienne a été réduite de 17%. En Asie-Pacifique, 60% des prairies sont dégradées, 80% des rivières sont polluées. Enfin, on peut faire une liste comme ça qui aboutit à une conclusion. Aucune région du monde n'échappe à une régression spectaculaire avec des projections très alarmantes.
Tout à fait.
Et donc là, on se dit vraiment, quand même, il y a besoin d'un sursaut.
Il y a besoin d'un sursaut, il y a besoin de compléter les connaissances, de mobiliser les politiques, les acteurs socio-économiques et aussi les citoyens à partir de ce constat pour essayer d'aller vers des pratiques différentes, des politiques différentes. Et nous, à la Fondation, ça fait des années que nous disons les enjeux de biodiversité doivent être traités au même niveau que les enjeux du climat. C'est le discours aujourd'hui de Nicolas Hulot. C'est tout de même un discours qui commence à être entendu, mais qui nous semble être le passage obligatoire.
Et en Afrique, quel est l'état de la biodiversité? Que dit le rapport de l'IBES? Nous en parlons avec nos invités juste après une petite pause.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Drag me away. you decided to show me the same. No sweet vein exists. Oh, off stage lines could make me feel bitter.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous parlons des derniers rapports sur l'état de la biodiversité dans le monde publiés par l'IBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Les résultats sont catastrophiques sur tous les continents. La chute de la biodiversité, je cite le rapport, met en danger les économies, les moyens d'existence, la sécurité alimentaire et la qualité de vie des populations partout dans le monde. C'est évidemment aussi le cas sur le continent africain où des associations se mobilisent pour protéger par exemple les grands singes. Ce sont nos plus proches cousins, il suffit d'échanger un regard avec eux pour le ressentir. Malheureusement, nous les massacrons pour leur viande ou parce que nous détruisons leur habitat, les forêts. Les gorilles de la rivière Cross par exemple, une sous-espèce du gorille des plaines, ils ne sont plus que 300 entre le Nigeria et le Nord Cameroun. Dans la zone forestière montagneuse du Makbetchou, l'ONG RUDEF essaye de les protéger. En 2014, ils ont créé une aire protégée, le Tofala Hills Wildlife Sanctuary. Alice Milo a rencontré Edwin Asso à cet endroit-là. Edwin Asso est la biologiste des RUDEF.
Plus on avance, plus le chemin rétrécit et devient tortueux. Mais vous, Edwin, vous n'avez pas besoin de regarder la route. Vous connaissez le chemin par cœur, on dirait.
Yeah, for the past 4 years.
Oui, depuis les 4 dernières années, je sillonne cette forêt. Je collecte des données sur les grands singes, sur la localisation des nids, le nombre de nids, les traces de nourriture pour pouvoir évaluer leur population. On collecte aussi des données sur les activités humaines pour mesurer la pression que les hommes exercent sur les grands singes. Voilà, à partir de maintenant, on entre dans la réserve naturelle. À partir d'ici, c'est donc une zone protégée et les populations locales ne sont pas autorisées à y mener des activités comme la chasse, la culture. Auparavant, il y avait une forte pression de la part des chasseurs, mais aussi des agriculteurs qui ont transformé la forêt en zone agricole. Les fermiers ont coupé plein d'arbres pour y installer des plantations de bananes, de coco ou de plantains. Même les grands singes étaient vus comme de la nourriture. C'était normal de les tuer pour les manger. On donnait même un titre honorifique à celui qui tuait un gorille. Voilà quelle était la situation quand l'ONG RUDEF est arrivée ici.
Est-ce qu'on peut évaluer aujourd'hui les dégâts qu'il y a eu sur les grands singes de cette forêt ?
Il y a 4 ans, on pouvait trouver jusqu'à 1000 cartouches dans la forêt. Ça donne une idée de la pression que les hommes exerçaient sur les animaux de la forêt. Aujourd'hui, on pense qu'il y a encore 60 à 70 chimpanzés et seulement 15 à 20 gorilles.
Donc là, on a retrouvé votre équipe ?
Oui, ça fait des jours que je suis dans la forêt avec eux pour installer des pièges à caméra. Mais d'ailleurs, on va s'arrêter ici pour en installer une. On a commencé à en mettre un peu partout dans la forêt depuis 2012. Actuellement, il y en a 22. Mais cette année, nous envisageons d'en installer plus de 50.
Donc là, vous avez sorti d'un sac à dos une petite boîte. En fait, la caméra est cachée dans le boîtier.
Oui. C'est une boîte de protection et de camouflage. C'est très difficile à repérer, car ça a la même couleur que la végétation. Elle se déclenche uniquement s'il y a un mouvement de ventelle, celui d'un animal ou d'un humain. On utilise ces caméras pour deux raisons. D'une part, pour avoir des images des grands singes, mais aussi pour visionner les braconniers. Comme vous avez vu ici, ce n'est pas un terrain facilement accessible. Et donc, forcément, quand nous arriverons sur place, le braconnier sera parti. Mais la caméra nous indiquera dans quelle direction il est parti. Alors, nous regarderons sur notre carte pour savoir quelle est la caméra la plus proche que nous avons installée dans cette direction. Et nous suivrons ainsi sa trace. La vidéo de la personne pourra ensuite nous permettre de la poursuivre en justice. Alors qu'avant la caméra, nous n'avions aucun moyen de savoir qui pratique le braconnage. Et ici, c'est un petit village. Quand on aura arrêté et puni une, deux ou trois personnes, les autres auront peur et les activités illégales s'arrêteront d'elles-mêmes.
Le fait qu'elle soit là, est-ce que ça ne suffit pas déjà à décourager les gens à faire du braconnage parce qu'ils pourraient être envoyés en prison sur preuve du coup?
Pour le moment, on ne leur a pas dit qu'on avait installé des caméras. Ils ne le savent pas. On craint qu'ils ne les détruisent s'ils l'apprennent.
Je m'appelle Alain Tabi. Je travaille pour l'ONG RUDEF en tant que biologiste.
On vient de quitter la forêt et on est de nouveau dans le village de Bessali qui borde tout juste la forêt. Ici, on est vraiment dans un village traditionnel du Cameroun.
Yeah, in the village, the total population is about 600 persons.
Oui, il y a environ 600 personnes qui vivent ici. Les gens d'ici sont pauvres. Ils vivent principalement des revenus de leur culture et de la chasse, notamment grâce à la forêt de Tofala qui est juste à côté. Le travail d'RUDEF ne consiste pas qu'à faire de la répression. On fait aussi de la sensibilisation auprès des populations.
Qu'est-ce que vous avez dit aux gens en arrivant? Comment vous les avez convaincus d'arrêter leur pratique?
On est tout d'abord venu avec des documents officiels qui attestent que tuer un gorille est un crime qui peut être puni par plusieurs années de prison. À partir de là, les gens ont commencé à avoir peur.
Mais parce qu'ils ne savaient pas que c'était interdit?
Non, ils ne savaient pas. Vous voyez bien, ici, c'est très enclavé et la plupart des gens n'ont pas accès à l'information. Et donc, le rôle des RUDEF a aussi été de les former à la conservation de la nature.
Comment vous avez été accueillis par les populations ici?
Bon, au début, ils ont été très hostiles. Ils disaient qu'RUDEF venait pour leur prendre leur forêt. Puis, après une période de sensibilisation, ils ont fini par comprendre qu'on voulait simplement protéger les grands singes de la forêt.
We are doing that continuously in schools, in community. We explain them.
Mais on doit continuellement parler avec eux à l'école, dans les communautés, pour leur expliquer quel est le rôle des grands singes dans l'écosystème. Il faut qu'ils comprennent que les arbres qu'il y a autour d'eux ont été plantés par les grands singes grâce à leur système digestif. Et ces arbres permettent ensuite qu'il y ait de l'eau dans les collines. Sans les grands singes, il n'y aurait plus d'arbres, plus d'eau, et le sol ne serait plus assez fertile pour cultiver. C'est ainsi qu'ils comprennent à quel point les grands singes sont importants.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
L'ONG RUDEF fait partie du PPI, le programme des petites initiatives, un programme du FEFEM, le Fonds français pour l'environnement mondial, géré par le comité français de l'UICN. Chimère Diot, je rappelle que vous êtes membre du conseil scientifique de l'IBES et l'un des auteurs du rapport sur l'état de la biodiversité sur le continent. Vous êtes en ligne depuis Yaoundé, au Cameroun. Comment réagissez-vous à ce reportage ?
Oui, c'est une question assez classique, assez vieille. qui en fait est reflété dans le rapport par le fait que il y a également au niveau africain une dégradation, une perte de biodiversité qui est assez forte, assez impressionnante, qui concerne vraiment au moins, si on prend les mangroves, il y a 20 dernières 30 années, il y a eu une perte de au moins 19% de la mangrove. On a perdu beaucoup d'espèces de mammifères qui sont menacées de façon assez significative, que ce soit les montagnes, les gorilles des montagnes ou enfin les grands singes en général, surtout avec l'influence du climat.
Alors, il n'y a pas que les éléphants et les grands singes, hein. Il y a aussi tout ce qui est micro-biodiversité. On en parle peu parce que ça nous émeut moins, mais c'est extrêmement important.
Exactement, la micro-biodiversité et également, lorsqu'on prend des plantes, nous avons quand même une quantité très impressionnante de plantes africaines qui ont des fonctions très spécifiques, sont soulignées par le résumé pour les décideurs. Qui sont menacés également. On a des pertes. Donc, de toutes les plantes qui sont utilisées, il y a à peu près un quart de million de variétés qui sont disponibles. Il n'y en a que 3% qui sont utilisées. Et donc, il y a un déclin de la diversité génétique. Alors, le rapport africain a cette particularité qu'il est structuré de façon extrêmement positive et de façon également en regardant vers le futur. Que faire ? Quelle est la situation et quelles sont les voies? Quelles sont les voies qui s'offrent?
Oui, parce que la population africaine va doubler hein, d'ici 2050 pour atteindre les 2 milliards et demi de personnes. Va falloir quoi? Inventer un nouveau modèle économique qui concilie développement et préservation de l'environnement, ce que nous n'avons pas su faire finalement en Occident?
Exactement, c'est exactement ça. L'Afrique est dans une position unique. C'est un continent qui a des actifs naturels qui sont uniques et le rapport met l'accent là-dessus. L'importance de ce que nous avons dans tous les domaines, donc, et de la sous-utilisation. Alors, c'est le grand paradoxe qui est souligné par le rapport, c'est que nous avons une sous-utilisation de nos ressources en même temps qu'elles sont en train d'être épuisées. Donc, ça pose fondamentalement le modèle d'utilisation, de gestion et de transformation, de rapport entre les hommes et la nature sur le continent africain. Alors, nous sommes le seul continent qui n'a pas encore fait son industrialisation. Ça veut dire que nous avons la possibilité d'industrialiser de façon nouvelle, de créer une économie écologique qui est capable de développer des solutions de développement à partir de la nature, d'un rapport différent avec la nature. Ouais. Donc c'est un peu ça. L'Afrique dispose de solutions et nous pouvons concrétiser notre avenir ensemble. Ce sont les grands titres qui concluent le résumé aux décideurs.
Jean-François Sylvain, les Occidentaux sont quand même assez mal placés hein, pour donner des leçons aux Africains.
Oui, parce que justement, le rapport sur l'Europe et l'Asie centrale montre bien que cette tendance générale aux pertes de biodiversité, elle existe en Europe, très nettement, que l'état des écosystèmes est fortement dégradé. On a beaucoup insisté sur le milieu marin, sur les milieux aquatiques continentaux, sur les lacs, etc., les questions d'eutrophisation.
Et la dégradation des terres, il y a un rapport qui a été consacré spécifiquement à cela.
Voilà, alors il y a eu, donc, à côté de ces rapports régionaux importants, bien entendu, il y a eu ce très important, parce que c'est la première fois que ça avait lieu, rapport sur la dégradation et la restauration des terres, qui a mis le doigt tout de même sur, bon, pour nous, scientifiques, le principal facteur de perte de biodiversité, c'est ce qu'on appelle le changement d'usage des terres, hein, bien loin devant le climat, etc. Et là, il y a quand même des chiffres qui sont perturbants, qui sont sortis sur le fait, par exemple, que les 2/5 de l'humanité risquaient étaient déjà soumis à l'incidence de cette dégradation des terres. Au sud, au nord aussi, vous n'êtes pas sans vous souvenir de la sortie du ministre de l'Environnement anglais qui a dit récemment, il y a quelques mois, que les sols de la Grande-Bretagne n'allaient plus pouvoir soutenir que quelques dizaines de récoltes avant d'atteindre leur incapacité, je dirais, biologique à continuer à soutenir les récoltes. Donc c'est vrai en France aussi, c'est vrai relativement partout. Et Peut-être pour la première fois. Alors, il faut être naturellement réaliste et équilibré, mais a été bien pointé du doigt, ben, finalement, le développement de l'agriculture intensive, le développement de certaines pratiques de foresterie qui sont à l'origine de ces changements d'usage des terres, sans négliger l'urbanisation, sans négliger aussi tout ce qui est, je dirais, stérilisation des sols par le bétonnage, etc. Mais globalement, c'est vrai que les pressions exercées par l'intensification agricole apparaissent comme un facteur majeur à l'origine de cette situation.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, restez avec nous, un peu de détente après ce tableau catastrophique en musique. Allez, avant de nous poser une question, notre utilisation du charbon peut-elle, à elle seule, tuer l'accord de Paris sur le climat ?
Au Saint-Hilaire, boucher Régine, tout se passe au fond, au fond, au fond. C'est comme dans les mines, comme dans les mines de charbon. Ceux qui travaillent dans les mines descendent de blanc, remontent noir. C'est ce qui m'arrivait chaque soir. Au Saint-Hilaire, boucher Régine, j'y ai connu une mineure avec une mèche de cheveux blonds qui rayonnait contre son front comme une lampe de mineur. Au Saint-Hilaire, boucher Régine, tout se passe au fond, au fond, au fond. C'est comme dans les mines, comme dans les mines de charbon. Lorsque je pris sa taille fine, j'en eus le grisou dans les mains et des sueurs au creux des reins. Comme les mineurs au fond des mines, en les mangeant je prenais des risques. Je savais que j'allais souffrir, moi qui ne pouvais lui offrir que des diamants de tourne-disque. Au Saint-Hilaire, boucher Régine, tout se passe au fond, au fond. C'est comme dans les mines, comme dans les mines de charbon. Un soir, bien sûr, elle fit des mines, à une mine d'or, un joli cœur. Je sentis un marteau piqueur qui me défonçait la poitrine. J'ai compris que c'était le final. Je voyais se marrer la galerie. C'est la première fois que l'on me vit remonter au jour, la gueule toute pâle. Au Saint-Hilaire, boucher Régine, tout se passe au fond, au fond, au fond. Mais je me dis en consolation que pour un pavé pour de bon, rien ne vaut les vrais mines de charbon.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement.
Vous voyez les tours là-bas, c'est le Mexique. Eagle Pass est juste à la frontière. C'est loin de tout, dans l'un des comtés les plus pauvres des États-Unis. La majorité des habitants sont latinos, parlent espagnol. Et c'est aussi la terre ancestrale de nombreuses tribus amérindiennes. Je m'appelle Taney Ward, je suis un militant amérindien au sein de l'organisation Equilibrio. Et je suis ici pour protester contre la mine de charbon Dos Republicas. Elle est en activité depuis 2015 sur des terres que l'on considère sacrées. Ce projet minier est particulièrement controversé parce que le type de charbon extrait ici vaut à peine mieux que le lignite. Le lignite, c'est la pire qualité de charbon. On en trouve surtout au Texas. Or, tout ce charbon va être transporté au Mexique pour alimenter les centrales électriques les plus sales de l'hémisphère nord. Quand la mine battra son plein, le charbon traversera la frontière au rythme d'un train par jour. Mais la pollution, elle, reviendra vers nous, par-delà la frontière. La frontière, c'est ce qu'on en aperçoit là-bas. Vous voyez le mur, les gardes frontières, les agents fédéraux ?
Depuis quand ce projet est en route ? Depuis quand ce combat existe ?
Le projet de mine a été annoncé en 1994 et l'opposition s'est formée dès cette époque. Mais elle n'est en activité que depuis 2015. Donc pendant 20 ans, c'était en sommeil. Mais la menace est bien là.
Quelles sont les inquiétudes pour l'environnement dans la région ?
La pollution émise par ce charbon va retraverser la frontière et contaminer l'air de notre région. C'est du carbone, donc ça favorise le réchauffement climatique, sans compter la pollution de l'atmosphère qui peut causer de l'asthme. Ils vont aussi jeter dans le sol des substances toxiques, notamment des métaux lourds comme le mercure. Et plus spécifiquement, cette mine va aussi déverser ses eaux polluées dans l'Elm Creek, un affluent de la rivière Rio Grande, dont l'écosystème s'en trouvera contaminé. L'oxydation de l'eau tue le poisson. Lors d'une inondation récente, on a constaté de nombreux poissons morts, et c'est sûrement dû à cette mine.
Il existe une légende sur cette foutue mine. L'histoire raconte que le créateur l'a fait fermer parce qu'il y avait trop de violence, trop de haine entre les peuples. Le créateur a enterré ses mauvais sentiments et a demandé aux corbeaux et aux pies de rapporter du bois et des branches pour y mettre le feu. À l'origine, ces oiseaux étaient blancs, immaculés. Quand ils sont sortis, la fumée les a noircis. C'est pour ça que les corbeaux sont noirs. Et le créateur a dit aux gens de ne surtout pas ouvrir la mine car le mal allait s'échapper. Tout est lié avec ce qui se passe ici. À mesure que le charbon sort de ce sol, ça déchaîne les éléments. Je vois comment cela affecte la météo. Quand les pluies fines arrivent du Mexique jusqu'ici, elles se transforment en orages violents. Le vent ramasse les mauvaises énergies et se mue en tornades. Cette année, il y a eu des ouragans à Floresville, à Dallas. Ça n'arrive jamais. Mais ça arrive maintenant, car personne n'écoute la voix des Amérindiens. Voilà le charbon là.
Un reportage de Cerise Maréchaux. Des mobilisations citoyennes comme celle-ci au Texas sont organisées sur tous les continents pour arrêter le recours au charbon. Par exemple, en ce moment, à 35 km de Dakar, les habitants de la commune de Barny sont bien décidés à empêcher le démarrage d'une nouvelle centrale à charbon dont l'immense cheminée domine déjà leur ville. Car la combustion du charbon apporte de l'électricité, mais elle pollue l'air et émet des gaz à effet de serre qui réchauffent le climat. Or, deux articles Le scientifique récent démontre que le nombre de centrales à charbon qui seront construites dans les années qui viennent va tuer l'accord de Paris. C'est-à-dire que si elles sont toutes construites et utilisées, le réchauffement du climat de la planète dépassera les 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Bonjour Lucie Vincent.
Bonjour.
Vous travaillez sur la finance et le climat avec entre autres les Amis de la Terre. Et à ce titre, vous suivez de près le financement des projets néfastes pour l'environnement et plus particulièrement la construction justement des centrales à charbon. Alors quelle est la proportion actuelle du charbon dans le mix énergétique mondial ?
Alors, la part du charbon dans le mix électrique et énergétique au niveau international, elle ne fait que baisser pour l'instant. Elle est aujourd'hui à 37% de l'électricité produite et à partir de charbon contre 25% de renouvelables. On voit aussi cette année que c'est la deuxième année consécutive avec une baisse du nombre de nouveaux projets de centrales à charbon prévus dans le monde. Donc plutôt une bonne nouvelle également.
Ça va dans le bon sens.
Cependant, il reste toujours des centaines de nouveaux projets prévus dans le monde entier pour une capacité de plus de 600 gigawatts.
Ce qui correspond
à peu près à 10 fois la capacité de toutes les centrales nucléaires françaises.
C'est énorme.
Donc c'est vraiment énorme. Et comme vous l'avez rappelé en début d'émission, si ces centrales sont construites, elles vont émettre avec celles qui existent déjà bien plus de CO2 qu'on ne peut se le permettre pour respecter l'accord de Paris et rester sous le seuil de 1,5 degré ou même de 2 degrés.
Alors pour simplifier, pour tenir les engagements de l'accord de Paris, il faudrait fermer toutes les centrales à charbon et annuler la construction de n'importe quelle centrale aussi. Il faudrait tout stopper dès maintenant.
Alors oui, il faut annuler la construction de nouvelles centrales, ça c'est très clair. Il faut également fermer les centrales existantes. Alors pas du jour au lendemain. Cependant, il faut avoir fermé le parc de centrales existantes d'ici 2040. Donc bien entendu, il faut commencer à s'y mettre et on ne peut pas attendre 20 ou 30 ans. C'est bien dès maintenant qu'il faut engager la fermeture du parc existant.
Alors l'Union européenne n'est pas exemplaire en la matière ?
Non, pas du tout, puisque on a des entreprises, notamment allemandes ou polonaises, qui continuent de vouloir construire de nouvelles centrales à charbon en Europe. Donc on a des dizaines de projets encore prévus. Et ce, avec le soutien d'acteurs financiers comme des banques ou comme des assureurs. Cependant, il faut peut-être rappeler quand même que le tableau, il n'est pas totalement noir. On voit également qu'un nombre croissant de pays s'engagent. Prennent des engagements à fermer leurs centrales ou en tout cas à ne plus en construire sans mécanisme de capture et de stockage du CO2.
C'est quoi, une trentaine de pays, c'est ça ?
On a aujourd'hui 34 pays ou régions qui ont pris de tels engagements. Donc le problème, c'est pas la direction. La direction, on va vers une sortie du secteur du charbon. Le problème, c'est que cette direction, elle n'est prise que maintenant, donc beaucoup trop tard, et que le rythme actuel est beaucoup, beaucoup trop lent. Pour donner un exemple, l'année dernière, on a fermé 25 gigawatts de capacité charbon, donc quelques dizaines de projets. On aurait dû en fermer 4 fois plus. Et il nous faut fermer cette quantité-là, donc 4 fois plus de projets tous les ans, jusqu'en 2040, si on veut rester vraiment sous le seuil de 1,5 degré.
Alors, qu'en est-il de la Chine ?
Alors, la Chine elle tient une place ultra singulière dans le marché du charbon. Il faut voir qu'elle va très vite, donc elle a suspendu déjà des centaines de projets ces deux dernières années. Elle a aujourd'hui un développement de nouvelles centrales à charbon qui rentre directement en concurrence avec ses objectifs extrêmement ambitieux de développement d'énergie renouvelable. Donc de même, ça va dans la bonne direction. Cependant, la Chine, elle a toujours plusieurs centaines de projets également sur la table. Et chose plus inquiétante encore, c'est qu'on voit la Chine jouer un rôle prédominant et croissant dans le développement de nouvelles centrales à charbon, non pas chez elle, mais à l'étranger. Avec 16% des projets aujourd'hui en développement hors du territoire chinois qui sont portés ou financés par des entreprises chinoises.
Alors dans quel pays par exemple ?
Alors, elle est active sur l'intégralité des continents, mais la chose la plus inquiétante est de voir la Chine, enfin en tout cas ses entreprises, actives dans des pays avec très peu ou voire pas du tout de capacité charbon. Donc on va penser notamment à la Mongolie ou également à de nombreux pays africains comme le Maroc, comme le Zimbabwe, le Malawi, l'Égypte, etc.
Alors cette politique est aussi pratiquée par les États-Unis et le Japon. Alors vous parliez du Maroc, pays en pleine transition énergétique qui mise quand même massivement sur les énergies renouvelables mais qui ne peut pas se passer complètement du charbon. Bonjour Sarah Doublier.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante au Maroc. Depuis 2013, un gigantesque projet de centrale thermique alimentée au charbon est en préparation. Alors que sait-on de cet ouvrage ?
Eh bien, il s'agit d'un complexe thermique qui doit être installé aux abords du port de Safi, sur le littoral atlantique, construit et exploité par un consortium composé des groupes Daewoo, Engie et Nareva, pour une firme marocaine. Elle doit ouvrir en mars prochain et vise à couvrir à terme un quart de la demande nationale en électricité. Cette centrale à charbon, dernier cri, d'une capacité de 1386 MW, insiste sur son caractère propre, avec des dispositifs destinés à limiter son impact environnemental, récupération des cendres volantes et lourdes et des systèmes de filtre des rejets atmosphériques. Il faut noter que ce n'est pas le seul projet en cours. Des extensions de centrales dans le nord-est du pays ont été réalisées récemment, mais aussi sur le littoral atlantique. Un autre méga-projet de station thermique à charbon, 2300 MW, est aussi prévu à Nador, dans le nord, à l'horizon 2023.
Le Maroc est donc loin d'avoir abandonné les énergies fossiles.
Oui, d'ailleurs, sa part d'électricité produite à partir du charbon a même bondi ces quatre dernières années. La part de marché a atteint un pic de 49% en 2015 et selon les prévisions de l'Office marocain de l'électricité, elle devrait toutefois baisser à 21% en 2030.
Alors le Maroc qui a accueilli la 22e conférence des Nations Unies sur le climat, hein, c'était en 2016 et pourtant régulièrement encensé pour son ambitieuse stratégie en matière de développement des énergies renouvelables. Alors pourquoi mise-t-il encore sur le charbon ?
Eh bien tout simplement pour des raisons économiques tout d'abord. L'importation du charbon reste compétitive au regard des produits pétroliers et pays en développement. Eh bien le Maroc doit aussi faire face à une hausse exponentielle de sa demande en électricité, plus 6% chaque année. Il s'agit là donc de sécuriser son apport en énergie par la diversification pour faire face au pic de consommation à venir avec son corollaire. Une facture énergétique conséquente. Le Royaume s'approvisionne essentiellement auprès des États-Unis, près de 60%, mais aussi de la Russie, de l'Afrique du Sud et de la Pologne. L'année dernière, la facture énergétique avait bondi de plus de 11 milliards de dirhams, soit environ 1 milliard d'euros.
Et le Maroc connaît des turbulences sociales dans les anciens bassins miniers à Djerada, dans le nord-est du pays. Peut-il aujourd'hui rouvrir des mines et devenir un nouveau producteur de charbon ?
Alors il y a peu de chances pour que de grands bassins miniers soient à nouveau ouverts au Maroc. Les charbonnages du Maroc ont cessé leur grande activité minière à Djerada il y a près de 20 ans et cela faute de rentabilité. Le ministre de l'énergie marocain l'avouait d'ailleurs dernièrement, l'extraction du charbon ne fait pas rêver les investisseurs, mais l'extraction clandestine, elle, s'est poursuivie ces deux dernières décennies. Les accidents mortels à répétition, 18 selon un dernier décompte, dans les puits creusés de manière informelle, eh bien, se sont multipliés. Ils ont provoqué un mouvement de contestation populaire qui dure depuis 2 mois dans l'ancienne ville minière de Djerada. Et pour calmer les esprits, quelques centaines d'emplois ont été promis aux habitants dans la toute nouvelle centrale thermique construite dans la ville. Mais elle fonctionnera cette fois avec du charbon importé.
Merci Sarah. Lucie Pinson, comment réagissez-vous à ce que vient de dire Sarah Doublier ?
Bon, on va questionner la responsabilité de la France dans tout ça, puisque on a entendu que Engie était partie prenante de ce projet au Maroc. Engie qui, hier, a annoncé la fermeture d'unités de centrales à charbon au Chili. Donc on attend que cette mesure-là soit bien appliquée, mais qu'elle soit aussi répliquée dans les autres pays où l'entreprise française détient des projets de centrales à charbon. Donc bien entendu, on appelle l'entreprise à s'engager, à renoncer à ce projet au Maroc, à s'en désengager et également à s'engager à prendre, à fermer les, et non à vendre les centrales qu'elle détient, notamment en Allemagne ou aux Pays-Bas.
Alors j'aimerais donner la parole maintenant à Sénine Afo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Bamako, au Mali. Vous êtes le directeur exécutif de l'Initiative africaine pour les énergies renouvelables. Comment réagissez-vous à ce que Sarah Doublier a décrit au Maroc avec cette centrale à charbon qui est en cours et aux propos aussi de Lucie Pinson ?
Le Maroc, c'est un fait, c'est un leader, pas seulement africain, mais même au niveau mondial sur les énergies renouvelables. Sur l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, je pense que ça a été rappelé. Le mix aujourd'hui au Maroc, c'est 20% pour les énergies renouvelables. En 2030, il y a une cible pour passer à plus de la moitié de la production d'énergie à partir de sources renouvelables. C'est très important. Et donc, les pays font face en fait à des défis assez extraordinaires, où d'ici une dizaine d'années, la demande va être multipliée par 2. La capacité installée a du mal à suivre. L'ingénierie financière et la disponibilité de financement adéquat pour accélérer la transition énergétique également a du mal à suivre. Donc, les États de leur mieux pour tenir, mais en termes de volonté politique, je pense que l'Afrique, de manière générale, a pris des engagements très importants. Cette initiative lancée à Paris en 2015, l'Initiative africaine sur les énergies renouvelables, entend doubler la capacité des énergies renouvelables, la capacité installée en Afrique, c'est aujourd'hui d'à peu près 150 gigawatts, à 300 d'ici 2030. partir d'énergie renouvelable.
Mais alors, donc, Lucie Pinson disait qu'il y avait plein de projets de centrales à charbon malgré tout en Afrique. Est-ce que c'est un passage obligé? Qu'est-ce qui freine finalement le développement des énergies renouvelables sur le continent?
Ce qui freine le développement des énergies renouvelables, c'est bien connu. Hein. On a trois grands types ou catégories de barrières et d'obstacles. La première catégorie, ce sont des barrières liées au cadre réglementaire et institutionnel. Les investissements dans les énergies renouvelables sont des investissements à long terme, sur 20 ans, sur 25 ans. Donc, il est nécessaire d'avoir un cadre réglementaire qui soit attractif, qui soit stable et qui donne justement un signal positif au secteur privé. Deuxièmement, ce sont les instruments financiers, les instruments pour gérer les risques, l'ensemble des risques qui peuvent exister, risques politiques, risques de change, risques notamment de contrepartie, parce que quand vous êtes du secteur privé, vous devez signer un contrat avec une entité publique. Si cette entité publique n'est pas solvable ou a des difficultés financières, ça augmente le degré de risque. Le dernier point, c'est l'infrastructure elle-même, c'est-à-dire la qualité du réseau sur lequel vous allez injecter des énergies renouvelables. Il y a des investissements conséquents à faire. Donc l'initiative est justement en train de travailler sur l'ensemble de ces barrières afin de les lever le plus vite. Et le fait justement qu'une initiative comme celle-là, pour la première fois, rassemble les chefs d'État africains, un chef d'État par région en Afrique, il y a 5 régions en Afrique, un par région siège au conseil d'administration. L'Union africaine a désigné le président de la Guinée, le président Condé, pour coordonner ces questions-là, afin de justement lever ces barrières. Parce que si nous ne faisons pas attention, si nous n'arrivons pas dans des délais assez raisonnables à justement accélérer le déploiement des énergies renouvelables, et aujourd'hui la technologie existe,
Merci, c'est Nina Faux. Merci, c'est Nina Faux. On a bien compris, en effet, tous ces freins pour le développement des énergies renouvelables, mais on sent bien qu'il y a quand même une impulsion politique. Lucie Pinson, très rapidement, c'est Nina Faux l'évoquait, un des acteurs clés, c'est bien sûr le secteur financier.
Bien sûr, puisque le secteur du charbon, aujourd'hui, ne peut pas se développer sans les capitaux et les assurances qui vont être fournies par les banques, par les investisseurs et par les assureurs. Et donc, il est indispensable que ces acteurs-là coupent leur soutien au secteur du charbon et les redirige exclusivement vers le secteur des énergies renouvelables. Or, ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que les financements aux entreprises du secteur du charbon n'ont cessé d'augmenter depuis 2015, donc depuis que l'accord de Paris a été adopté. Ils ont augmenté de 30%. Et on voit également que même si les banques françaises ont adopté des politiques sur le secteur du charbon, elles continuent cependant de soutenir les entreprises qui construisent aujourd'hui de nouvelles centrales à charbon. Donc on voit vraiment qu'il y a un enjeu au niveau de l'adoption de critères robustes qui va permettre de conduire à une sortie du secteur du charbon. Au-delà des banques, c'est également la question des investisseurs ou également des assureurs qui aujourd'hui assurent, donc soutiennent via des produits d'assurance le développement de nouvelles centrales à charbon dans le monde.
Merci à tous d'être passés dans ces pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission et à vous d'être fidèles à ce nouveau rendez-vous. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.